France Culture. Le progrès technique et surtout technologique a le vent en poupe en ce moment à Paris où se tient, vous le savez maintenant, le sommet mondial pour l'intelligence artificielle. Derrière l'enthousiasme traduit en promesses d'investissement se tient la volonté de se placer dans une course à l'innovation et donc à la compétitivité avec en toile de fond une promesse: tout ira désormais plus vite, soit des gains de productivité considérables. Mais que nous dit la théorie des conséquences des inventions techniques ou en l'occurrence technologiques pour l'économie? C'est là que les choses se corsent. Il ne suffit pas d'une découverte, fût-elle brillante, pour qu'elle soit synonyme de croissance. Encore faut-il remplir les conditions nécessaires à sa transformation en une véritable innovation, capable de trouver preneur sur le marché, d'être accessible au plus grand nombre et surtout en mesure de générer à son tour d'autres innovations. Bref, on le comprend, un coup de génie jamais n'abolira le risque et l'invention ne se transforme pas en marchandise par pur hasard. Ce sont les durs lois que les économistes ont tenté de formaliser tout au long du XXe siècle pour comprendre où menait ce progrès que rien ne semble pouvoir arrêter. Les révolutions scientifiques mènent-elles nécessairement aux révolutions économiques? C'est la question que nous posons dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jour.
Ah, ouvrez bien vos yeux juvéniles, mes enfants, instruisez-vous. Là-bas, c'est le gaillard d'arrière, là, le gaillard d'avant. Eh oui, mes enfants, admirez la machine à vapeur qui met New York aux portes de Paris en moins de 20 jours. Confondante, une merveille du génie humain.
Oh! Oh là là! Ben dis donc!
Ah! Voyez cette grande roue, dite volant. Invention trouvée par l'illustre Danny Papin.
Non!
Si. Cette grosse barre de fer. Ça s'appelle la bielle.
Voilà un extrait de La famille Fenouillère, un film sorti en 1961 et réalisé par Yves Robert pour bien commencer cette émission. Une émission où se trouvent également deux invités. Agnès Labrousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Lyon, vous êtes membre du laboratoire Triangle et c'est donc depuis Lyon que vous êtes avec nous grâce à Chantal Nouvello qui assure ce duplex depuis les studios de Radio France à Lyon et je l'en remercie. Dominique Forêt, vous êtes également avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et on attend évidemment la publication de votre ouvrage « Innovation, une économie pour les temps à venir » aux éditions La Découverte, prévue pour le mois d'avril de cette année. Et puis je remercie à son tour Didier Binder qui nous permet de communiquer avec vous depuis les studios de la radio-télévision suisse à Genève. Dominique Forêt, il nous faut peut-être lever une première ambiguïté pour bien démarrer l'émission. Le progrès technique en tant que tel, l'idée d'une invention, d'un coup de génie scientifique, on ne l'associe pas nécessairement à la discipline économique. On imagine mal un savant fou dans son laboratoire penser forcément aux retombées commerciales qu'auront cette invention. Est-ce à raison qu'on peut opérer cette distinction nette entre les deux domaines, celui qui serait de la science, de l'invention et donc relative à la découverte, et celui de l'économie et donc de l'application concrète? Est-ce qu'on a raison d'opérer cette distinction-là?
Oui, alors je pense qu'on a effectivement tout à fait raison de distinguer en particulier donc tout ce qui relève des inventions, des découvertes scientifiques, même des nouvelles idées au fond, et de ce qui va se passer dans l'économie. Et en gros, c'est précisément le rôle de l'innovation déterminer cette valeur économique qui va être engendrée par l'invention, par les nouvelles idées, etc. On a vraiment, je pense, besoin de cette différence parce qu'au fond, de tout temps, des inventions ont existé. De tout temps, l'ingéniosité, la créativité humaine a été importante. Mais c'est au fond assez récemment qu'on a cette machinerie complexe d'une économie de l'innovation qui va transformer ces inventions en nouveaux produits, nouveaux procédés, nouveaux services et qui vont créer une valeur économique, qui vont avoir des effets économiques importants. Donc, au fond, c'est quoi l'innovation? C'est une invention qui réussit économiquement. C'est la réussite économique d'une invention. Et au fond, pour réussir, il faut passer des épreuves, et vous en avez déjà parlé. Préférence des consommateurs, coût, incertitude sur la qualité, parvenir à remplacer ce qui est déjà en place et qui a des positions fortes précisément parce que c'est déjà en place, etc., etc. Donc c'est vraiment le passage entre l'invention ou l'idée ou la découverte et cette réussite économique qui s'exprime essentiellement sur un marché et qui est au fond le fait de l'innovation.
Et on va voir que cette réussite économique, elle non plus ne tombe pas nécessairement du ciel. Vous parlez d'ailleurs, je crois, Dominique Fauré, d'un véritable laboratoire économique, pour reprendre cette métaphore aussi de l'inventeur dans son laboratoire. De fait, Agnès Labrousse, c'est une constante, en tout cas c'est quelque chose qu'on peut faire remonter aussi des écrits des économistes. C'est largement le terme innovation qui est préféré à celui de progrès technique ou d'invention.
Alors ça varie selon les périodes. Hein. Le terme de progrès technique a joué un rôle très important, mais comme souvent, les mots connaissent des effets de mode et le mot progrès hein, a toute une série de connotations qui aujourd'hui peuvent apparaître un peu comme surannées et souvent innovation a pris le relais. Mais je me permets de rebondir sur ce qui a été dit avant et sur la première question. En fait, il faut aussi rappeler que, d'une part, toutes les innovations, y compris techniques, ne partent pas d'un savant dans son laboratoire, qui a des innovations qui peuvent émerger par le bas, par des ouvriers, etc. Qui a des inventions aussi qui peuvent, et des innovations qui peuvent être le fait d'utilisateurs pionniers. Donc en fait, il y a une myriade d'acteurs, et pas seulement le savant dans son laboratoire qui peut être à l'origine d'une innovation. Et puis une autre différence entre progrès technique et innovation, c'est que l'innovation, c'est un concept beaucoup plus large, beaucoup plus polymorphe, et que toutes les innovations ne sont pas high-tech, toutes les innovations ne sont pas techniques, il y a des innovations organisationnelles, il y a des innovations sociales, il y a des innovations institutionnelles, donc il ne faut pas assimiler forcément innovation et innovation technique.
Et on va voir quelle que soit la nature finalement des innovations que vous venez d'évoquer, Agnès Labrousse, à chaque fois, effectivement, il faut largement nuancer ce mythe peut-être de l'inventeur solitaire, du génie qui n'aurait besoin de l'appui de rien si ce n'est de son propre cerveau. On va voir qu'il y a tout un tissu autour qui peut justement favoriser l'émergence de ces innovations. Dominique Fauré, vous l'avez dit, de tout temps, les hommes ont effectivement mis au point des inventions qui ont eu un usage. On pourrait parler de la charrue, on pourrait parler de la roue, qui ont eu très concrètement des retombées sur l'organisation au travail, sur la productivité. Ça a facilité la vie de beaucoup de gens aussi grâce à ces inventions-là. Pourquoi ces inventions-là peuvent être qualifiées ou pas d'innovation? Est-ce que ça rentre dans ce prisme que vous nous décriviez de l'innovation?
Oui, moi je pense vraiment que au fond la révolution de l'innovation, c'est-à-dire le fait que ces inventions, ces technologies, cette créativité au fond, elle va être canalisée non pas dans des objets techniques magnifiques comme le château de Versailles, hein, ou les pyramides ou la cathédrale, qui ont au fond très peu d'effet sur la productivité et sur en gros le niveau de vie des gens, mais va être canalisée vers au fond des entrepreneurs qui imaginent des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouveaux services, au fond à l'attention des gens ordinaires. C'est très important ça. Et je pense que cette économie de l'innovation-là, de nouveaux produits, nouveaux services, utiles pour les gens ordinaires, elle se met en place plutôt vers 1850, parce que avant il n'y avait pas les institutions, au fond. Et les gens étaient créatifs, ingénieux, on a toujours été créatifs et ingénieux, on a inventé tout ce qu'il était possible d'inventer, mais au fond, on voit très bien qu'il n'y a pas de croissance économique, que au fond, il y a une certaine stagnation de l'économie, que les gens sont pauvres, on a le château de Versailles, et puis on a le peuple de Paris, qui est très pauvre. Hein, donc, on n'a pas ces effets économiques qui vont ensuite être déterminés par cette économie de l'innovation qui se met en place. Alors, avec des institutions telles que la réduction du risque, le financement de projets incertains, la protection de la propriété intellectuelle, et puis des valeurs, hein, des valeurs, on va dire, modernes, qui sont la liberté d'entreprendre, la liberté liberté d'entrer sur un marché, l'autonomie par rapport au gouvernement, la concurrence. Imaginons un tapissier, au XVIIe siècle, qui a une super idée pour faire des tapis bien mieux, mais il fait pas partie de la confrérie des tapissiers. Eh ben, il peut pas entrer, il peut pas innover. Donc, c'est toutes ces nouvelles valeurs là qui vont aussi créer les fondations, font un peu, je dirais, épistémologique de cette économie de l'innovation à partir de 1850. Il y a eu la révolution industrielle avant, mais qui était quand même assez limitée. Mais ensuite, à partir de 1850, on voit une explosion, une révolution de l'innovation et des corrélations avec la productivité, les salaires, la croissance, le produit intérieur brut par tête, etc. C'est ce que disait Phelps, un prix Nobel d'économie en 2006. Il disait quelque chose d'étrange se met en place pendant ce temps, à ce temps-là, donc vers 1850. Et c'est cet entrepreneuriat qui se met en place, grâce plutôt aux institutions, je dirais.
Justement, alors Dominique Fauré, peut-être pour bien insister, parce que là c'est un point essentiel aussi pour bien comprendre comment se transforme, hein, on l'a dit, une invention, un progrès technique justement en innovation, c'est-à-dire innovation, comme vous l'avez dit, une invention qui a réussi économiquement. Pour comprendre cette bascule-là, il y a cette importance des institutions qui n'existaient pas forcément de fait avant cette date fatidique de 1850, mais on peut se dire que les frontières historiques sont relativement floues, mais ce que vous entendez par institution, qu'est-ce que c'est au juste? Et est-ce qu'on peut considérer que le fait même d'avoir un marché qui encadre et qui permet à ces inventions de se transformer en innovation est une innovation institutionnelle en tant que telle? On a besoin d'un marché pour parvenir à parler d'innovation.
Alors là, on a besoin d'un marché pour parler de certains types d'innovations qui ont été dominantes, ils sont toujours dominantes, c'est précisément les innovations commerciales, c'est-à-dire les innovations qui sont pensées par des entrepreneurs, des inventeurs, des ingénieurs, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux procédés, pour créer une valeur économique de type donc valeur pour le consommateur, mais aussi profit. Mais on a aussi des innovations dont le succès va s'exprimer essentiellement hors marché, donc Agnès l'a déjà dit, type des innovations sociales, Wikipédia, la microfinance, etc. etc. Mais je pense que le basculement et le lien entre innovation et au fond progrès économique, niveau de vie, se fait fondamentalement par l'intermédiaire donc d'un marché qui va fonctionner avec ces institutions qu'ils soutiennent, donc encore une fois qui se mettent en place non pas en 1850 bien évidemment, mais au cours des siècles, et qui soudain ça fait tilt au fond, hein, ça fait tilt et on a ces incroyables grappes d'innovation qui transforment vraiment de façon révolutionnaire la vie des gens et qui font qu'aujourd'hui on est des humains qui sont vraiment différents des humains du début du 19e siècle sur ces grandes fonctions que sont la mobilité, la communication, la santé, l'accès à un niveau de confort disons minimal pour tout le monde, etc. etc. Et tout ça, c'est cette révolution de l'innovation liée à ces institutions. Moi, j'ai pas tellement d'explications par la science et la technologie, parce que ça a toujours existé. Il y avait Bertrand Gille, un historien français maintenant assez ancien, hein, parlait des mécaniciens grecs, des ingénieurs de la Renaissance, tout ça existait. Mais on n'avait pas ce processus, ce passage entre cette créativité et puis un marché sur lequel on va valoriser cette créativité, notamment par des meilleurs produits, des meilleurs services et aussi des baisses de coûts absolument massives qui font vraiment partie de l'innovation, puisque les baisses de coûts, c'est l'idée que tous les consommateurs, les gens ordinaires, peuvent accéder à des choses qui, auparavant, relevaient de l'expérience, au fond, des princes, des rois, etc. Et soudain, progressivement, tellement de services, tellement de produits, qui étaient donc, effectivement, plutôt l'apanage des classes vraiment très, très élevées, eh bien, deviennent une expérience, au fond, qui devient banale. Bah, c'est la mobilité, je pense qu'on en reparlera plus tard, liée à la durabilité, mais la mobilité, c'est quelque chose de fantastique, qui est vraiment le résultat de cela.
D'ailleurs, en parlant de mobilité, puis pour bien comprendre aussi cette importance, même si on va y revenir, Dominique Fauré, de cette notion d'être accessible au plus grand nombre et de servir aussi les gens ordinaires, comme vous l'avez dit, vous citez notamment l'exemple d'une innovation de fait qui n'a pas vraiment très bien fonctionné, c'est le célèbre avion supersonique, le Concorde, très clairement. Bon, voilà, c'est une forme d'échec commercial, notamment parce que voilà, il y avait une adéquation, on va dire aussi, entre la technologie proposée et puis la commercialisation possible. On le voit, cet aspect de la commercialisation est très important. Agnès Labrousse, revenons tout de même sur ce 19e siècle et puis sur la révolution industrielle qui tout de même, enfin les révolutions industrielles d'ailleurs, qui tout de même ont marqué une forme de tournant. Alors, plein d'explications possibles, effectivement, soit parce qu'il y avait effectivement un débouché sur un marché donné, qu'il y a eu de véritables gains de productivité, aussi peut-être, on pourrait évoquer le fait que ce soit des inventions qui étaient assez nombreuses, qu'une invention, enfin une innovation a permis d'en engendrer plein d'autres. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là, donc dans ce début de 19e siècle, que les économistes ont commencé à se saisir du sujet de ce que pouvait produire justement l'innovation sur l'économie?
Alors on peut faire remonter ça plus loin, hein, dès les débuts de la révolution industrielle, et on peut même voir des prémices avant, hein. Il y a des éléments par exemple chez Adam Smith, hein, dans son chapitre célèbre sur la division du travail, hein. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que il met en avant aussi des innovations qui sont imaginées, il explique, hein, quand on visite les manufactures, en fait, on se voit présenter une machine ingénieuse imaginée par quelques pauvres ouvriers pour abréger et faciliter sa besogne. Il donne même l'exemple d'un enfant qui a créé une innovation, en fait, très simple, hein, techniquement, puisque les enfants travaillaient, hein, à l'époque, dont il n'aura d'ailleurs pas eu les bénéfices, hein, mais qui a été ensuite approprié par son maître. Et il met aussi en avant le développement de l'industrie des constructeurs de machines, qui devient l'objet d'une profession particulière, l'objet d'une division du travail, et qui du coup permet des gains d'habileté, d'efficacité, etc. Hein, donc il y a déjà des prémices, mais il n'y a pas une économie de l'innovation au sens contemporain du terme. Cette économie de l'innovation, moi je la ferai commencer avec Friedrich List, qu'on connaît pour sa protection des industries naissantes, mais en fait il y a toute une pensée, on pourrait aujourd'hui la qualifier d'une pensée en termes de système d'innovation, avec aussi un rôle des politiques publiques, hein, qui fournissent des infrastructures en termes d'éducation, des infrastructures de transport et des institutions, des infrastructures en termes de santé aussi, qui sont favorables à ces innovations, à leur genèse et à leur diffusion. Hein. Donc il y a une pensée qui se développe, hein, à ce moment-là, et qui va être très forte chez les économistes institutionnalistes allemands de la fin du 19e, début du 20e siècle, avant Schumpeter. Et Schumpeter va d'ailleurs s'en inspirer. Donc il y a déjà à ce moment-là des réflexions sur le lien entre innovation et cycle économique, entre cycle du crédit et cycle d'innovation. On met aussi en avant le rôle des entrepreneurs, mais aussi des infrastructures publiques.
Et ce qui est intéressant, Agnès Labrousse, c'est qu'on a presque là une forme de nouveau paradigme qui s'instaure. Si on arrive à convaincre notamment les pouvoirs publics de mettre en place tout ce que vous avez évoqué en termes d'infrastructures et puis aussi de moyens dans l'éducation, on pourrait presque parler de capital humain à ce moment-là, mais si on arrive à convaincre les politiques publiques d'investir, finalement, de mettre de l'argent sur la table, ou en tout cas de mettre à disposition tous les éléments qui permettent cette innovation, c'est aussi parce qu'on croit aux retombées de cette innovation, on croit que la croissance peut sans cesse être poursuivie. Est-ce que ça, c'est nouveau de croire que la croissance est quasiment infinie? Est-ce que c'est quelque chose de tellement nouveau que c'est la raison pour laquelle, finalement, avant Smith, et ça n'intéressait pas tellement les économistes plus classiques, je pense notamment à des Malthus, des Ricardo, que de s'intéresser à cette question de l'innovation, parce qu'on ne croyait pas tellement que la croissance pourrait être poursuivie à l'infini, on va dire.
Alors, il y avait une pensée de la finitude de la croissance et d'une marche vers l'est stationnaire, hein, chez ces économistes classiques. Et Friedrich List, que je mentionnais précédemment, lui, a une vision qu'on qualifierait aujourd'hui de cornucupiste, hein, de la corne d'abondance, c'est-à-dire qu'il y aurait une dynamique presque infinie d'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les économistes allemands dont je vous parlais auparavant, qui vont suivre, eux, voyaient aussi l'ambivalence. Ils voyaient à la fois un certain nombre d'effets positifs des innovations, mais il voyait aussi la part sombre des innovations, toute une série d'effets délétères, y compris d'ailleurs sur l'environnement, sur certaines catégories de population. Donc en fait, il y avait déjà toute une série de débats dès la fin du 19e, début du 20e, autour voilà des effets positifs, mais aussi des effets beaucoup plus délétères de toute une série d'innovations.
France Culture.
Bonjour, Gauguin.
Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, madame.
Entendez-vous l'écho?
Oh. Ah, et où allez-vous donc avec cet appareil?
Eh, je me suis passé qu'avec la pioche. Vous en auriez pour 3 mois à vous crever le tape-perlin. Tandis qu'avec la charrue, à 3 jours, on aura tout lavoué.
Aliette Ovine.
Voilà, on le disait, des inventions, des innovations qui permettent aussi de gagner en productivité. C'est sans doute le cas de la charrue également. Agnès Labrousse, on a parlé d'une prise de conscience des effets délétères aussi de ces innovations, que ce soit en termes environnementaux. D'autres, et assez tôt aussi, ont pris en compte la dimension sociale aussi de ces innovations et se sont demandé si progrès technique était forcément synonyme de progrès social. Impossible, on ne va pas rentrer dans le détail, mais impossible de ne pas citer là Karl Marx, qui voit tous ces bouleversements des révolutions industrielles et qui oppose de fait capital et travail, c'est bien connu. Et pour lui, le progrès technique, on va dire le fondement de sa pensée aussi. Le progrès technique permet l'augmentation du volume du capital et donc une diminution de la masse salariale. Là, on ne peut pas vraiment dire que le progrès technique soit vu de fait comme source de progrès social. Agnès Labrousse, il y a déjà aussi de ce côté-là une prise de conscience.
Oui, il y avait une prise de conscience, hein, même si chez Marx, au fond, il y avait une vision assez laudative de la bourgeoisie, du caractère innovant de cette classe sociale. D'ailleurs, c'est un aspect de Marx qui plaira beaucoup à Schumpeter. Mais alors, comme les économistes classiques, hein, Marx mettait en avant des formes d'exploitation, la dureté extrême des conditions de vie, progrès technique qui ne profite qu'à des minorités. Il y avait aussi quelques éléments sur une dimension écologique, exploitation des humains et de la nature, mais quand même, Marx restait très empreint de cette pensée du progrès du 19e siècle qui emmène finalement vers toute une série d'innovations qui ensuite, qu'on pourra dépasser avec l'avènement du communisme.
Dominique Forêt, sur ses premières prises de conscience, on va dire, des potentielles limites aussi de l'innovation.
Oui, sur tous ces sujets qui sont vraiment, vraiment effectivement importants et effectivement la pertinence de tout un ensemble de problèmes sociaux liés, qui sont liés à cette économie de l'innovation. Il faut lire, par exemple, Acemoglu, donc le récent prix Nobel sur ces questions dans Power and Progress, et c'est vraiment effectivement très flagrant. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que le niveau de vie global des gens s'est amélioré absolument de façon énorme depuis 1850. Les données montrent que le PIB par tête a accru plus de 5 fois depuis 1950. Espérance de vie, donc la proportion de gens dans l'extrême pauvreté qui est fortement diminuée, etc., etc. Donc on a quand même des critères tout à fait tangibles du fait que donc cette économie de l'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux services, etc., elle a des effets tout à fait positifs sur d'abord sur l'Occident et puis après bien au-delà, bien évidemment. Donc ça c'est clair. Donc ce pouvoir de transformation de l'innovation sur la vie matérielle que l'on peut voir qualitativement et quantitativement, donc il est extrême. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des énormes problème. Dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Est-ce qu'on a voulu tout ça ?» C'est effectivement la crise écologique et environnementale. C'est un certain nombre d'inégalités qui sont produites par l'innovation. Et là, je ne parle pas des super inventeurs et entrepreneurs qui sont des milliardaires. Ce n'est pas le problème. C'est plutôt le fait que certains, il y a des marchés qui sont trop pauvres et donc les innovations ne les visent pas. On peut aussi avoir un accès très biaisé à la position l'ambition d'entrepreneur, etc., etc. Il y a aussi le problème des bons emplois, c'est-à-dire que l'innovation peut créer des bons emplois, mais peut en créer aussi des très mauvais. Et puis, il y a aussi le problème de la mauvaise régulation, des mauvaises innovations, hein, parce qu'il y a des innovations mauvaises qui devraient être empêchées et qui ne le sont pas. Donc, d'un côté, il y a une grande admiration pour ce que fait l'économie de l'innovation, ce qu'elle a réalisé et ce qu'elle devrait pouvoir réaliser par rapport à la transition, mais il y a aussi un grand désappointement, parce que tous ces problèmes, ils sont cruels, au fond. Il y a une économiste de Chicago que j'aime beaucoup, hein, qui est assez libérale, on va dire, hein, Dern McCloskey, qui dit, oui, mais au fond, avec ces imperfections qu'elle considère comme mineures, qui a besoin de perfection? En fait, elle a tort. Les imperfections de l'économie de l'innovation sont à la mesure des accomplissements. Et donc, c'est un grand défi pour la suite.
Et on va revenir, Dominique Forest, sur ce que vous entendiez ou ce que les économistes entendent par une mauvaise innovation. Ce sera tout à fait au programme de notre émission. Vous avez cité Darren Acemoglu et Simon Johnson dans ce fameux ouvrage Power and Progress. Ce que vous venez de dire permet de préciser aussi quelque chose, parce que ces deux économistes-là, ils insistent, hein, sur le fait que, de toute façon, une technologie nouvelle, une invention, quelle que soit la nouveauté, sont profondément malléables. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose est mis sur le marché qu'il va avoir un usage précis. C'est ce qu'on en fait, qui va avoir potentiellement des retombées. Cette malléabilité, elle est cruciale aussi pour comprendre les retombées des innovations, Dominique Forest.
Oui, elle est absolument cruciale. Alors, merci beaucoup d'avoir énoncé cet argument. Effectivement, cette malléabilité, elle est au cœur aujourd'hui des débats sur l'intelligence artificielle. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une nouvelle technologie, elle n'est pas prescriptée au fond. Hein, elle n'est pas déterminée d'un point de vue économique par rapport à son impact, par rapport à ses effets sociaux, etc., etc. On peut très bien imaginer le cas de l'automobile. Hein, une innovation magnifique, mais qui aurait pu avoir des scénarios bien différents, au fond. Et ce qui donne le script, au fond, économique à l'automobile, c'est pas quatre roues, un volant, etc., etc. C'est le message de Ford qui dit « je veux que chacun ait une automobile ». Cette volonté-là, c'est ça qui, soudain, crée un script économique, c'est-à-dire qui va déterminer la production de masse et toute une société organisée autour de l'automobile. On aurait pu penser à des scénarios différents de développement de l'automobile, vers, je sais pas, plus de collectifs, etc., etc. Donc, effectivement, cette malléabilité, elle est très importante, et c'est justement le processus d'innovation qui va fournir le script, au fond, hein, qui va fournir le scénario économique que cette innovation va suivre. Alors, bon, ça peut être des scénarios temporaires, etc., etc., mais globalement, c'est pas la technologie, au fond, qui joue par rapport à cela, et c'est effectivement ce qu'on va en faire. Encore une fois, les débats sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est absolument ça.
Agnès Labrousse, sur ce sujet des usages qui détermineraient finalement les bénéfices d'une innovation ou non.
Oui, j'aimerais bien revenir sur ce bel exemple de l'automobile, hein, parce que si on regarde l'histoire de l'automobile, y compris aux États-Unis, c'était pas du tout une volonté populaire que chacun ait son automobile. En fait, il y a eu des résistances très importantes parce que l'automobile envahit l'espace public au détriment de d'autres usages, hein. Par exemple, les enfants dans les rues, ça restreint la place des piétons, etc. Et ce déploiement de l'automobile ne s'est pas du tout fait de manière démocratique, par une volonté populaire. Il y avait au contraire des résistances très fortes. Il y a eu beaucoup de morts. Il y avait des manifestations et des commerçants et des populations contre l'automobile. Et en fait, il a fallu des processus de lobbying très forts des industries pétrolières, automobiles, etc., notamment alors auprès des autorités, et puis après pour racheter les compagnies de tramway qui fonctionnaient très très bien dans les grandes villes aux États-Unis. Ils les ont mis au rebut pour les remplacer par les voitures individuelles, par des bus, etc. Et là où on a demandé l'avis de la population, alors on a quelques exemples, hein, il y avait des votations en Suisse dans le canton des Grisons, il me semble, et par 10 fois, la population s'est avait refusé à autoriser la voiture individuelle, hein, qui était considérée comme un privilège dangereux de riches. Et en revanche, il souhaitait autoriser les ambulances motorisées, etc., un certain nombre d'usages collectifs et d'intérêts publics. Donc en fait, on n'a pas du tout demandé l'avis des populations. C'est quelque chose qui s'est fait au prix aussi du développement des infrastructures routières et autoroutières, qui s'est souvent fait de manière extrêmement brutale en pratique. Et on n'a pas du tout écouté les résistances qui étaient en partie légitimes, et on l'a pas fait au nom d'un progrès inéluctable.
Mais c'est intéressant, Agnès Labrousse, cette notion d'usage collectif, d'intérêt public, parce que de fait, les économistes se sont posés quand même assez tôt quels étaient les avantages mais économiques de l'innovation. On le retrouve hein, d'ailleurs chez Jean-Baptiste Say, qui en 1821 il se pose la question, et puis d'ailleurs il trouve des réponses dans son catéchisme d'économie politique. Il écrit que le progrès technique est avantageux aux entrepreneurs d'industrie aussi longtemps qu'il ne fait pas baisser le prix des produits. Du moment que la concurrence a fait baisser les prix au niveau des frais de production, le service des machines devient avantageux aux consommateurs. Là, Agnès Labrousse, cette dimension-là, elle n'est pas du tout prise en compte. On peut le dire, pendant longtemps, les économistes ont raisonner vraiment en termes d'acteurs, les consommateurs, les entrepreneurs. Il n'y avait pas vraiment cette notion de bien commun qui rentre dans le calcul, on va dire, de la valeur d'une innovation.
Alors là aussi, il y a en fait une diversité de points de vue et de courants parmi les économistes. Hein. Voilà, il y en a un certain nombre qui raisonnaient à la manière de Jean-Baptiste Say. Et puis, il y en a d'autres. Alors, je vous parlais de ces économistes allemands avant Schumpeter, de langue allemande avant Schumpeter. Il y a notamment Werner Zombart hein, qui expliquait que il y a un certain nombre d'innovations issues des acteurs privés qui peuvent poser problème parce que l'intérêt privé ne coïncide pas forcément avec l'intérêt général, et donc il préconisait la mise en œuvre de politiques publiques pour que les innovations soient plus dirigées vers l'intérêt général. Donc en fait, il y a une diversité de positions sur cette question, et les débats historiques en fait sont était déjà très riche.
Et de fait, pour resituer peut-être dans la chronologie, Werner Zombart effectivement rédige publie en 1928 Le capitalisme moderne. Donc on se situe voilà à cette échelle-là, on va dire, en termes de temporalité. Et vous l'avez dit, il va inspirer, alors je ne sais pas si c'est de façon, on va dire, assumée de la part de Schumpeter, mais il va inspirer Joseph Alois Schumpeter, qui a beaucoup étudié la question de l'innovation. Dominique Forêt, on va y revenir, vous nous avez parlé d'une conception phelpsienne de l'innovation qui mérite attention, et on va y arriver. Mais tout de même, on comprend quand même avec Schumpeter qu'il y a quelque chose qui se noue, peut-être qui s'imbrique très fortement entre, pour le coup, invention et innovation. C'est lui qui lie vraiment les deux d'un point de vue de la théorie économique.
Oui, il me semble. Donc moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire de la pensée économique.
Mais
donc,
vous distinguez cette innovation schumpeterienne de l'innovation phelpsienne.
Oui. Exactement. Alors parce que dans la pensée de Schumpeter, l'innovation, elle vient quand même spécifiquement des laboratoires scientifiques, des inventions, etc. Et donc on a ce processus, et qui est vrai. Effectivement, je travaille à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et c'est très clair. Hein, on a un processus qui va des laboratoires jusqu'au marché, si effectivement l'invention, comme je l'ai dit, passe les épreuves de l'économie, les coûts, les préférences des consommateurs, etc., etc. Innovation phelpsienne, pourquoi ? Parce que Phelps dit quelque chose que je trouve tout à fait fascinant, et qui dit qu'il y a beaucoup d'innovations, ça a déjà été dit d'ailleurs tout à l'heure, qui ne viennent pas des laboratoires scientifiques, qui ne viennent pas de l'invention, mais qui au fond émergent de l'économie elle-même. Et c'est évident. Ainsi, il y a beaucoup d'innovations qui vont vraiment transformer les marchés, et qui ne sont pas fondamentalement issues d'une invention, d'une découverte scientifique, etc., etc. Je prends un exemple. Ce que j'adore, c'est le livre de poche. Le livre de poche, bon, évidemment, il y a de la technologie, il y a de la technologie partout. Mais l'idée générale de cette innovation, c'est plutôt, effectivement, d'en finir avec des livres prestigieux, chers, lourds, qui étaient réservés à une caste de gens littéraires et bien éduqués, à, effectivement, un accès tout à fait facile et démocratique. C'est une démocratisation de la lecture par le livre de poche. C'est une innovation fantastique qui, au fond, n'a pas de mauvais côté, je dirais, alors qu'il y en a plein qui en ont. et qui donc effectivement est plutôt une innovation phelpsienne, parce que ça vient de la vision de certaines maisons d'édition, notamment à Paris, qui se disent mais pourquoi ne pas faire un produit au fond que tout le monde pourrait acheter, c'est quand même pas bête comme idée, mais ça vient pas de l'invention. Autre exemple, c'est les plateformes de partage. Même s'il y a beaucoup de technologies, l'idée géniale, alors on peut parler d'Uber qui est très controversé, mais c'est quand même vrai. L'idée géniale de se dire, c'est que tout le monde roule en voiture avec en surcapacité, il y a toujours des places vides, etc., etc. Donc on va utiliser ce stock de places vides pour effectivement optimiser l'offre et la demande de trajets urbains. Bon ben ça c'est à nouveau phelpsien, parce que ça vient d'une idée entrepreneuriale, au fond, hein, qui est pas liée à l'invention, même si, là encore, il y a beaucoup de technologies, etc. Et je pense que ces innovations phelpsiennes, elles peuvent avoir des effets sur la productivité énormes. Dernier exemple, je le promets, c'est la première personne qui a pensé à « Ok, je vais ouvrir un service de location de voiture ». Mais c'est génial, parce que ça démultiplie les capacités, ça aide les gens qui ne peuvent pas avoir de voiture à rouler quand ils en ont besoin, etc., etc. Donc cette idée d'un nouveau service, alors je sais pas qui a inventé ça, mais c'est une innovation qui est issue de l'économie, au fond. Donc, Phelps parlait beaucoup de ça, et que, au fond, un pays qui est dynamique en innovation, il a vraiment les deux. Il arrive à trouver un mix entre les innovations schumpeteriennes, c'est-à-dire un système scientifique et de recherche très fort, mais aussi ces innovations phelpsiennes qui sont simplement la vivacité, la vision des entrepreneurs, mais aussi des utilisateurs, des usagers, à trouver des nouvelles opportunités, des réponses à des problèmes qu'ils ont rencontrés dans la vie de tous les jours, etc.
France Culture.
Mes chers enfants, nous sommes entrés dans un siècle fabuleux. Le progrès est en marche.
Entendez-vous l'écho?
Les miracles, ceux nés de la science, seront quotidiens et apporteront de la joie aux plus pauvres, aux plus humbles. Les maisons auront le gaz, la lumière électrique, souvent même le téléphone.
Aliatovine.
Dominique Fauré, il faut insister sur cette dimension que vous venez d'évoquer, notamment à travers les travaux d'Edmund Phelps, hein, je le rappelle, qui est un grand économiste de la croissance et qui a reçu le prix Nobel d'économie, le prix de la Banque de Suède, pour être tout à fait exact, en 2006, je crois. Mais ce qu'il faut bien, enfin, le point sur lequel il faut insister, vous l'avez dit, c'est l'idée d'un usage généralisé. En fait, ce qui vaut dans cette histoire, c'est que finalement, les gens ordinaires puissent avoir accès aussi à ces inventions, à ces innovations-là. Vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage Apparaître, je le rappelle, un autre économiste de la croissance, Robert Gordon, qui analyse les changements qui ont eu lieu aux États-Unis après la guerre civile, donc depuis un sacré bout de temps. Il le dit, les travaux manuels extérieurs furent remplacés par un travail effectué dans un environnement climatisé. Le travail domestique fut de plus en plus exécuté par des appareils électriques. À l'obscurité succéda la lumière. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, ce qui compte, c'est pour une invention est une pertinence économique, c'est que tout le monde se l'approprie, et c'est pas uniquement une histoire de marché, de trouver une demande et donc potentiellement des consommateurs, Dominique Fauré.
Oui, bon, d'abord je trouvais le petit extrait là que vous avez passé absolument génial.
C'est la gloire de mon père, la gloire de mon père.
Ah, d'accord. Donc c'est effectivement super, et ça illustre bien cette question. Alors une petite nuance qui est que franchement la puissance de l'innovation s'affirme quand elle effectivement produit et donc développe des produits, des services, des procédés donc à l'attention des gens ordinaires, parce que effectivement et c'est pas de l'altruisme, hein, c'est juste que effectivement pour effectivement toucher le plus de consommateurs possible et donc réaliser des profits, ben c'est intéressant effectivement d'essayer de penser non pas à Louis XIV et au château de Versailles, mais à effectivement enfin aux masses de gens. Et on le voit très bien dans mon livre, il y a l'exemple du frigidaire, hein, qui est vraiment un produit absolument exceptionnel qui change la vie des familles et dont les coûts vont baisser de façon inexorable, ce qui crée énormément de valeur, parce qu'au fond, quand on achète un frigidaire, on transforme sa vie pour toujours, hein, et donc le coût de l'innovation n'est absolument pas au niveau de la valeur de la transformation. Donc on a ces effets d'externalité positive qui sont très importants. Il y a une nuance, hein, il y a quand même, ça veut pas dire qu'il y a pas d'innovation, par exemple dans l'industrie du luxe, il y en a énormément, ou dans l'industrie sur des produits à usage très professionnel, par exemple, je sais pas, des caméras, des appareils photo que la crème des reporters s'arrache. fromage, tout ça, ça existe et c'est très innovant, mais bien évidemment, l'impact est beaucoup plus faible. Et les surplus qui sont engendrés sont plus faibles, simplement parce que ce sont des marchés restreints. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ces industries-là ne sont pas innovantes. Maintenant, je pense que vraiment, le cœur de l'innovation, c'est cette démocratisation. Et j'espère qu'on va en parler à la fin, c'est un peu provocateur, mais moi, je pense que l'innovation de modèle d'affaires qui est le transport aérien à bas coût, low cost.
Là, pour le coup, oui. Là,
c'est une innovation extraordinaire.
C'est une innovation extraordinaire, mais en termes d'externalité négative, c'est ça pose une question.
Qui a une part très sombre, mais qui a quand même démocratisé ce qui était un service de luxe. Et moi, je dis toujours à mes étudiants ou à mes enfants, c'est quand même génial pour vous de pouvoir explorer le monde à un prix très faible. Et c'est ce que les humains du 19e siècle ne pouvaient pas faire, ce qui fait que nous, on est des humains différents, et que, pour moi, le transport à bas coût doit subsister, bien sûr, avec des régulations permettant de réduire les effets environnementaux, etc.
Oui, parce qu'on pourrait se dire que ce qui est plus génial encore, c'est de pouvoir effectivement vivre de façon normale et viable, on va dire, dans les villes, et avec un niveau de température, on va dire, vivable. Agnès Labrousse, sur cette question, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que en fait on est face à des impacts qui sont très forts sur l'environnement, et il y a toute une série d'innovations techniques où on ne peut pas avoir de démocratisation viable, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir 8 milliards de voitures électriques, on peut pas tous prendre régulièrement l'avion. Il faut qu'on arrive à par exemple 2 tonnes par personne et par an. Un aller-retour Paris-New York, ça explose, c'est déjà au-delà de ces 2 tonnes, donc 2 tonnes tout confondu. Donc en fait, tout simplement, ce n'est pas généralisable en termes d'impact sur les matières utilisées. Donc derrière, il y a des mines, il y a des pollutions énormes, et on n'a pas suffisamment de ressources, en métaux rares notamment, pour faire face à ça. Donc en fait, il y a des limites. Et il faut qu'on retrouve peut-être cette pensée des limites pour repenser la pertinence des innovations pour le transport aérien. Ce n'est pas possible pour la voiture non plus. À ce moment-là, l'impact en termes de pollution, d'encombrement, etc., d'infrastructures et d'entretien de ces infrastructures, ça représente en fait des coûts qui sont des coûts tout simplement exorbitants. Et ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable sur le plan écologique.
Mais Agnès Labrousse, de fait, se pose la question qu'on a déjà un tout petit peu évoquée à l'instant avec Dominique Forest, mais se pose la question de la régulation. On l'a commencé à le comprendre, c'est l'environnement aussi qui compte, l'environnement institutionnel, les politiques publiques qui comptent pour favoriser l'innovation. Vous l'avez dit, on en prend conscience finalement assez tôt aussi dans l'histoire de la pensée économique. Est-ce qu'aujourd'hui, une sorte de contrainte supplémentaire, de contrainte qu'elle soit législative, normative, ne consisterait pas à une forme de retour en arrière dans cet imaginaire justement de l'innovation à favoriser à tout prix?
Il faut sortir de cet imaginaire-là, c'est-à-dire que là, on a franchi 6 limites planétaires sur 9, et ça remet en cause l'habitabilité de la planète. Et donc là, c'est notre quotidien qui est de plus en plus impacté et qui va l'être de matière drastique si on ne réoriente pas les innovations, si on ne fait pas le tri et si on ne les régule pas fortement. Et par exemple, en matière de transport aérien, le levier de la sobriété et de la réduction du transport aérien est un levier incontournable. Tous les rapports un peu sérieux sur le sujet le montrent. Donc on peut pas poursuivre. Voilà, moi j'aimerais beaucoup pouvoir voyager sans cesse dans le monde entier. Il faut réserver ça à des voyages qui sont des voyages essentiels, et beaucoup moins à des voyages de pur loisir, de pur tourisme, pour des durées très très faibles. Donc vraiment, il faut repenser les innovations à l'heure de l'anthropocène.
Dominique Forest, on en revient à ce qui pourrait être conçu comme une mauvaise innovation, en tout cas du point de vue des économistes.
Oui, là je voudrais juste réagir là-dessus parce que je suis quand même pas d'accord sur sortir de cet imaginaire, etc. C'est un levier incontournable, mais donc la sobriété, etc., etc. Mais c'est juste que ça marche pas. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Il y avait un article dans Le Monde hier sur la construction de nouveaux aéroports à l'échelle de la planète. Les carnets d'Airbus et de Boeing sont pleins pour 10 ans, etc., etc. Et le trafic aérien a repris après la crise du Covid comme ça s'était jamais fait avant. Et donc, alors on peut dire oui, il faut plus voyager, etc., mais ça fonctionne juste pas. Et donc, puisque on sait que les taxes n'ont qu'un effet au fond modéré sur la réduction des quantités et sur la substitution dans le domaine du transport aérien, que ces normes sociales, elles bougent pas. Il y a évidemment des choses à faire. Il y a des équipes, des investissements massifs dans les lignes de trains à grande vitesse en Europe. C'est évident qu'il faut le faire. Mais encore une fois, ces normes sociales, ces comportements des gens ne changent pas. Donc, de mon point de vue, c'est la technologie là, dans ce cas-là. Et c'est pas du techno-solutionnisme, c'est de la lucidité. C'est de la lucidité. Il faut mettre des milliards sur les technologies à hydrogène, etc., etc. Mais donc ça, c'est un point qui est seulement sur le transport aérien, parce que là, on sait que les leviers dont on a parlé, ils fonctionnent pas. Sur plein d'autres, disons, grandes missions. Et objectifs sociétaux, ça fonctionne. Mais là, on voit que ça fonctionne pas. Et c'est simplement pour le fait que beaucoup d'activités ont été organisées compte tenu du fait qu'on puisse voler, qu'on peut voler. Donc c'est le tourisme, c'est même la science au fond, hein, etc., etc. Donc bon, de mon point de vue, lorsqu'on prend la politique de l'innovation comme un processus de découverte, on voit qu'on découvre progressivement qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Et à un certain moment, eh ben il faut renforcer les choses qui fonctionnent. Et là, la technologie, il y a pas de limite à notre imagination. Et je pense qu'un jour, on trouvera des solutions. Mais pour ce type de problème spécifique. Et je voulais enfin finir avec l'idée que je crois vraiment à la capacité de l'innovation à transformer, à vraiment supporter la transition écologique, circularité, énergie renouvelable, électrification, substitution de facteurs. Tout ça, ça va diminuer notre empreinte écologique. Mais il y a des limites, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord, on peut pas améliorer l'efficacité avec lesquelles on traduit, on transforme les ressources naturelles en produits et en procédés, on peut pas améliorer cette efficacité à l'infini. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, on peut se libérer des limites de la planète, ce qui est faux. C'est ce que les économistes pensaient, mais c'est faux. Donc effectivement, il faut parier sur l'innovation de toute façon pour améliorer cette efficience écologique de l'économie, mais il faut aussi investir dans la protection de la nature et aussi investir dans la sobriété quand c'est possible. Mais donc on peut avoir les deux, hein. On peut avoir l'idée de capacité d'innovation avec un pouvoir de transformation énorme, et on le voit bien avec l'énergie renouvelable par exemple, mais aussi dire clairement, et je crois que Partha Dasgupta, qui est un économiste qui a écrit le rapport sur la biodiversité, nous aide bien à le comprendre, on peut aussi dire que la croissance ne peut pas effectivement se développer à l'infini, qu'il y a des limites et qu'il faut aussi investir, pas du tout dans l'innovation, mais dans la nature, c'est-à-dire la protéger.
Et puis reste à savoir, on l'a dit, l'innovation c'est aussi une prise de risque, on peut aussi se demander si finalement miser sur le soutien justement à l'innovation, quelle qu'elle soit, ne va pas se retrouver confronté à cette finitude des ressources, puisque vous l'avez dit Dominique Forêt, il s'agit à la fois d'un environnement institutionnel de valeurs, mais aussi de ressources, il faut des ressources pour pouvoir innover. Que va-t-il se passer lorsque ces ressources seront complètement arrivées au bout de leur stock, c'est une question qui demeure, on l'a compris en tout cas, il s'agit d'un imaginaire très fort qui a été construit autour du poids des innovations qui découlent elles-mêmes des inventions. Plusieurs facteurs sont nécessaires pour les transformer de fait en véritables facteurs économiques. On va voir plus tard aussi comment les institutions et l'État peuvent avoir cette vision, on en parle tout de suite. Genius des Dandy Warhol sur France Culture, puisque nous parlons aussi de cette figure peut-être usurpée, peut-être légendaire et mythique dans ce que ce mot comprend aussi en termes d'acception négative, on va dire, en fonction de l'innovation qui est apportée à l'économie. Comme tous les mercredis, nous inscrivons un nouveau mot dans notre dictionnaire et aujourd'hui c'est un concept, celui donc de progrès technique et de ce qu'il apporte à l'économie en devenant innovation, qui est ausculté grâce à Dominique Forêt, professeur d'économie à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à Agnès Labrousse, professeure d'économie à Sciences Po Lyon et membre du laboratoire Triangle. Alors on l'a dit, il s'agit avant tout de déconstruire potentiellement des imaginaires liés aux bénéfices de l'innovation, imaginaire qui s'est construit à plus forte raison sous l'impulsion de certains économistes.
J'avais pris pour acquis, comme tout le monde, que le principal moteur de la croissance était l'accroissement de la population et l'accumulation de biens. Mais j'ai découvert en m'intéressant aux statistiques que cette histoire ne tenait plus debout.
Et que le seul moyen de compter
la seule façon d'expliquer ce que nous avons connu aux États-Unis entre 1909 et 1950, c'est que la principale force motrice de l'économie était en fait ce que j'appelle le progrès technique. Cela recouvre l'amélioration de la technologie, mais aussi l'amélioration des compétences, puisque la construction des compétences est nécessaire à l'élaboration de technologies plus avancées. J'ai donc tenté d'estimer la contribution du progrès technique à la croissance de l'économie américaine. Et j'ai trouvé, étonnamment, que près de 80% de la croissance économique du XXe siècle était attribuable à l'avancée de ce progrès technique au sens large.
Voilà le lien entre progrès technique, innovation et croissance, formalisé par Robert Solow, un économiste né en 1924 et puis mort assez récemment en 2023, qui a lui aussi reçu le prix Nobel en 1987. Il parlait là en mars 2016 de sa vision de la croissance. Dominique Forêt, je voulais passer cet extrait parce qu'il nous dit beaucoup de choses sur la façon dont on a conçu à une certaine époque cette vision du progrès technique et de ce qu'il pouvait apporter, alors en termes de croissance, mais on voit bien, on entend bien qu'il s'agit d'une vision beaucoup plus large, mais aussi parce qu'on doit à Solow une phrase qui est restée célèbre, « Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques », qui résume un fait assez paradoxal. On s'aperçoit dans les années 2000, mais on pourrait peut-être potentiellement appliquer ce raisonnement aussi à aujourd'hui. On voit dans les années 2000 les technologies qui se multiplient et pourtant pas tellement de gains de productivité. Comment expliquer ce paradoxe, Dominique Forêt ?
Oui, donc c'est le paradoxe de Solow, et effectivement, et qui s'explique assez facilement par le fait que, encore une fois, l'ordinateur, c'est une invention. Alors ensuite, c'est une invention qui est diffusée dans l'économie, etc., etc. Mais il faut du temps pour que les gens, les entreprises, les organisations apprennent à s'en servir. Et donc ce processus de diffusion, notamment d'une technologie comme l'ordinateur qui est vraiment transversale, donc dont le potentiel d'effet économique ne va s'apprécier que lorsque il va être utilisé dans de nombreux secteurs. Eh bien, il y a tout un apprentissage apprentissages, des réorganisations, effectivement des compétences, etc., qui doivent être mises en place et qui prennent du temps. C'est pourquoi, au départ, on a des ordinateurs partout, mais cela ne se reflète pas dans les statistiques de productivité. Et un autre économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul David, qui est aussi décédé il y a pas très longtemps, eh bien, a fait effectivement l'analogie historique entre l'électricité et l'ordinateur, en montrant que chaque fois, on avait un délai d'une quarantaine d'années entre l'invention, au fond, et puis ces effets économiques qui se répandent dans l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, probablement que pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. On aura là encore un délai relativement important par rapport à, donc aux effets économiques, même si on en a déjà, mais aux effets totaux de l'intelligence artificielle dans l'économie et dans la société.
Dominique Forêt, vous diriez qu'en ce moment, ou en tout cas depuis, on va dire, les quelques dernières années, ce fameux goulet d'étranglement qui fait que, ce fameux effet d'entonnoir dont vous parlez également, qui fait qu'on passe justement de l'invention dont beaucoup sont laissés de côté à l'innovation qui a des retombées concrète, ce goulet-là est-il plus large aujourd'hui? Et si oui, pourquoi, en quoi on croit finalement aujourd'hui quand on élargit potentiellement ce goulet-là?
Alors ce goulet-là, il est plus large, donc merci de citer cet effet entonnoir que je trouve intéressant, tout simplement parce que l'économie de l'innovation, enfin ou même notre économie est de plus en plus centrée sur l'innovation, au fond, hein, et que donc, bon, je sais pas, moi, à l'EPFL, je suppose à l'Université de Lyon aussi, il y a des cours d'entrepreneuriat, tout le monde parle de ça, il y a des offices de transfert de technologie partout, les universités ont des indicateurs de performance en termes de brevets, d'innovation, etc. Donc tout le monde se focalise là-dessus. Ce qui fait que, eh bien, les inventions, les nouvelles idées, au fond, elles se transforment en innovation sans doute un peu plus facilement qu'auparavant, parce qu'il y a moins de trous dans la raquette, au fond, et il y a moins de choses oubliées, etc., etc. Et alors, ensuite, est-ce que ça, c'est bénéfique pour la société? Donc, on a ces gains de productivité. On peut aussi avoir des tas de choses qui sont des innovations pas très utile, pas très intéressante, même des mauvaises innovations, et qui donc vont avoir plutôt des effets négatifs, comme on a pu le dire.
Agnès Labrousse, ce qui est intéressant aussi avec cette notion des innovations, enfin des inventions qu'on laisse de côté et de celles qui de fait deviennent des innovations, c'est qu'il y a la notion d'une action entre les deux, au moins d'une sélection. On retrouve cette idée de bonne versus mauvaise innovation. Reste à savoir qui est le juge et arbitre. Et de fait, de quoi est constitué ce fameux tissu institutionnel qui permet cette transformation de l'invention à l'innovation? Est-ce que de ce point de vue-là, selon vous, c'est l'État, c'est plutôt des instances publiques qui ont un rôle à jouer sur la vision finalement qu'on veut impulser vis-à-vis de l'usage de ces innovations?
Oui, c'est tout un écosystème hein, qui va jouer dans les processus d'innovation, dont toute une série d'institutions publiques. Hein, et ça a été très bien mis en évidence par une économiste de l'innovation, Mariana Mazzucato, hein, qui a montré que, par exemple, derrière l'iPhone, derrière Steve Jobs, il y a de grands programmes de recherche publics fondamentaux aux États-Unis, en Europe, des agences fédérales, et qu'au fond, le mérite d'Apple, ça a été d'assembler ce qui avait été découvert par d'autres. Hein. Donc voilà, ça permet de sortir un petit peu de ce mythe du génie isolé qui joue à lui tout seul un rôle fondamental. Et puis après, ça se pose la question des impacts sur la société, sur la santé humaine, sur la santé des écosystèmes et effectivement de qui va décider quelles sont les innovations pertinentes hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toute une série d'innovations qui ont des effets profondément délétères hein, pensons par exemple aux polluants éternels hein, les fameux PFAS hein, qui on le sait hein, ont des effets en termes de développement de cancer des testicules et du rein sont aussi souvent des perturbateurs endocriniens, ont des effets sur le système reproducteur et hormonal, etc. Et on sait aussi que les entreprises pionnières dans ce secteur, DuPont et 3M notamment, hein, ont sciemment caché la toxicité de leurs substances pendant des décennies. Hein, et il a fallu qu'une équipe de l'Université de Californie, notamment, ait eu accès à des milliers de documents internes de ces entreprises pour montrer de manière accablante qu'ils étaient parfaitement au courant de l'extrême extrême toxicité hein, de ces substances et qui l'ont sciemment caché. Hein, donc il faut pas être du tout naïf, il faut pas du tout foncer tête baissée en pensant que parce que c'est de l'innovation, c'est une bonne chose pour la société, pour l'environnement, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il faudrait démocratiser en fait les innovations, que les citoyens aient beaucoup plus de place hein, dans la décision sur qu'est-ce qu'on finance, pourquoi. Parfois le low-tech est beaucoup plus pertinent, des innovations sociales, des innovations conviviales peuvent avoir beaucoup plus de sens que voilà cette espèce de course aux petits chevaux, cette fuite en avant vers l'innovation sans réfléchir à leurs conséquences.
Et puis ça permettrait aussi potentiellement de procéder à de nouveaux arbitrages entre la valeur, on l'a dit, entre ce qui fait, on va dire, la colonne positive pour les innovations, à savoir le profit, puis le surplus du consommateur et puis les externalités négatives. Et c'est effectivement un débat qui mériterait davantage de démocratisation. Il reste à savoir comment l'organiser, comment impulser justement le résultat de ce genre d'arbitrage auprès des entreprises et des innovateurs de façon plus générale. Ça pourra être l'occasion d'un autre débat que nous mènerons sans doute ici à Entendez-vous l'écho. En attendant, je vous remercie beaucoup à tous les deux, Agnès Labrousse et Dominique Forêt, d'avoir participé à cette émission.